France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Donald Trump ne veut plus rien négocier avec l'Iran. Trop tard, dit le président américain, alors que les frappes se multiplient sur le territoire iranien. Dans un instant, nous retrouverons Siavosh Ghazi à Téhéran. De son côté, Israël a ouvert un deuxième front, cette fois au Liban. L'État hébreu a envoyé des troupes au sol pour créer une zone tampon dans le sud du pays. Israël qui veut en finir avec le Hezbollah. La guerre au Proche et au Moyen-Orient oblige de nombreux pays à trouver des solutions pour évacuer leurs ressortissants présents dans le Golfe. La France notamment veut rapatrier en priorité les personnes vulnérables. Dans le reste de l'actualité, quelles alliances à gauche pour les élections municipales? Le Parti Socialiste pourrait avoir besoin de LFI dans de nombreuses villes, mais les dernières sorties de Jean-Luc Mélenchon empêchent tout rapprochement global entre les deux partis. Nous ferons le point avec Adrien Toffoli. Au quatrième jour de l'offensive américano-israélienne sur l'Iran, Donald Trump ferme définitivement la porte à la négociation avec le régime des Mollahs. Ils veulent discuter, j'ai dit trop tard, écrit le président américain sur son réseau Truth Social. Donald Trump qui affirme que leur défense aérienne, leur armée de l'air, leur marine et leur commandement sont anéantis. De fait, les Américains et les Israéliens pilonnent sans relâche les lieux de pouvoir de la République islamique, notamment à Téhéran. Des puissantes explosions résonne à nouveau ce soir dans la capitale iranienne où l'on retrouve Siavosh Ghazi.
L'aviation américaine et israélienne ont mené une série de frappes contre le pays. Depuis ce matin, la capitale iranienne a été frappée à de nombreuses reprises, notamment des bases militaires situées à l'est de la capitale ont été visées, tout comme l'aéroport national Mehrabad qui se trouve dans le sud de Téhéran, ainsi qu'un dépôt de carburant dans le nord de la capitale. D'autres frappes ont eu lieu dans la ville de Qom contre un bâtiment de l'Assemblée des experts. L'armée israélienne a affirmé que les membres de l'Assemblée des experts qui est chargée de choisir le nouveau guide étaient réunis à l'intérieur de ce bâtiment au moment de la frappe et que tous les 88 membres de l'Assemblée ont été tués, ce qui a été démenti par les médias iraniens en affirmant que le bâtiment était vide au moment de la frappe. Mais d'autres bâtiments ont également été visés à Téhéran, par exemple, des bâtiments symboles du pouvoir, notamment le bâtiment qui abrite le conseil de discernement du régime, qui a un poids important au sein du pouvoir iranien. Il y a une intensification très claire des opérations militaires israéliennes et américaines contre l'Iran, alors que l'Iran riposte également en lançant des frappes contre les bases américaines et contre Israël.
Siavosh Ghazi, correspondant de RFI à Téhéran. À propos de cette assemblée des experts visés par les dernières frappes israélo-américaines, un nom semble se dégager pour prendre la succession du guide suprême Ali Khamenei, celui de l'ayatollah Ali Reza Arafi, l'un des trois membres du conseil de direction intérimaire, le triumvirat formé après la mort de Khamenei pour combler le vide du pouvoir. Valérie Crova, il s'agit là d'un religieux conservateur de 67 ans.
Il était l'homme de confiance d'Ali Khamenei, dont il incarne une forme de continuité. Ali Reza Arafi a suivi, dès l'âge de 11 ans, des études de théologie dans la ville sainte de Qom. Son père était imam. Durant son séminaire, il a étudié le droit islamique et la philosophie. Son influence repose en grande partie sur son expérience en tant que doyen de l'Université internationale Al-Mustapha de Qom. Cette université forme des religieux chiites. Elle dispense des cours en persan, en arabe et en anglais et dispose de plus de 80 antennes à l'étranger. C'est l'un des vecteurs les plus importants de la propagation de l'islam chiite dans le monde. Ali Reza Arafi a cumulé d'autres postes clés en tant que membre du Conseil des gardiens de la Révolution et vice-président de l'Assemblée des experts, cette instance chargée de désigner le futur guide suprême. Il parle très bien anglais. En 2022, on l'avait vu au Vatican, où il avait été reçu en audience par le pape François en tant que figure de l'islam chiite.
Valérie Crova de la rédaction internationale de Radio France. Si les Américains se concentre sur l'Iran. Israël mène désormais une guerre sur deux fronts, l'Iran et le Liban. Dans le pays du Cèdre, c'est le Hezbollah pro-iranien qui est visé. Plus de 160 cibles à travers tout le territoire libanais. Des frappes qui ont déjà fait 52 morts selon les autorités libanaises et 30 000 déplacés d'après l'ONU. L'armée israélienne qui ne se limite pas à des bombardements, elle a commencé à envoyer des troupes au sol au sud Liban. L'objectif étant de créer une zone tampon en territoire libanais. On retrouve à Jérusalem, Thibault Lefèvre, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Thibault, des soldats israéliens opèrent désormais au sol au Liban.
Oui, annonce ce matin de l'armée israélienne qui occupait déjà illégalement 5 positions sur le territoire souverain libanais. Ces soldats pénètrent donc un peu plus en profondeur encore au sud du pays et ils contrôlent désormais une zone tampon d'environ 1 demi-kilomètre. Selon le porte-parole de l'armée israélienne, Nadav Shoshani, il ne s'agit pas pour autant d'une offensive au sol.
La nuit dernière, des troupes ont été déployées à plusieurs endroits au sud du Liban, près de la frontière. Nous renforçons notre dispositif de défense avancée. Soyons clairs, il ne s'agit pas d'une opération terrestre au Liban. C'est une stratégie pour renforcer la sécurité des habitants du nord d'Israël.
Une stratégie bien éprouvée qui consiste à occuper illégalement du territoire, donc, comme en Syrie ou à Gaza, pour créer une zone tampon et protéger ainsi les frontières. Lors de la précédente offensive du Hezbollah, là, le 8 octobre 2023, 60 000 Israéliens ont été évacués en urgence. Pour le moment, les 4 attaques revendiquées par un Hezbollah considérablement affaibli sont limitées à quelques drones et roquettes et la population du Nord reste sur place.
Et les troupes israéliennes frappent aussi depuis le ciel, Thibault.
Massivement, oui, et avec bientôt encore plus de puissance, selon les mots du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, en déplacement sur une base militaire cet après-midi. L'essentiel des frappes se concentre d'abord sur le sud du Liban, puis sur la plaine de la Beka à l'est, et enfin sur le fief du Hezbollah au sud de Beyrouth. Selon l'ONU, 30 000 Libanais ont fui les zones bombardées.
Merci Thibault Lefebvre, correspondant à Jérusalem. Le retour de la guerre au Proche et au Moyen-Orient oblige de nombreux pays à organiser le rapatriement de leurs ressortissants. La plupart des aéroports du Golfe Persique sont fermés en raison des représailles iraniennes et des milliers de touristes attendent désespérément un vol retour. Pour ceux qui sont à Dubaï, une seule solution, rejoindre par la route le sultanat d'Oman en espérant pouvoir ensuite monter dans un avion. Isabelle Labéry et Gilles Gallinaro ont rencontré à Dubaï ces voyageurs qui tentent tant bien que mal de se prendre en charge.
Dans la salle des départs, Milena agite ses faux ongles, roses à paillettes.
Je suis venue à Dubaï parce que c'était mon anniversaire, une année spéciale. Mes 25 ans. Puis la guerre a commencé, en plein dans mon anniversaire.
Pour quitter la ville en catastrophe, la jeune géorgienne a dû payer un taxi, 600 euros. Pour le reste, elle sait qu'elle a beaucoup de chance.
Notre gouvernement et notre agence de voyage nous ont bien aidés. Ils nous ont envoyé 2 avions ici. Ils ont payé l'hôtel et la nourriture matin, midi et soir.
David, lui, essaie de rentrer à Rome, mais il ne sait ni quand ni comment.
On n'a aucun soutien de la part de l'Italie. Que des infos bidons sur des vols hypothétiques. En plus, à la frontière, tous les taxis essaient de t'arnaquer.
Era impensabile.
Je ne pouvais pas imaginer qu'une chose comme ça arrive à Dubaï. Pour moi, c'était le pays le plus sûr du monde.
Même sentiment pour Shang Fei, expatriée à Dubaï depuis 3 ans. Elle rentre chez elle à Pékin.
On entendait les bombes. Je ne veux pas vivre dans cet état de stress. Je préfère faire une pause. C'est important aussi pour ma famille et mes amis qui s'inquiètent tous les jours pour moi.
Quasiment vide ce matin, l'aéroport de Mascate est ce soir plein à craquer de touristes de toute nationalité. Sur le tableau des départs, la plupart des vols, eux, restent annulés.
Isabelle Labéry et Gilles Gallinaro, envoyés spéciaux de France Culture dans le Golfe Persique. De son côté, la France a décidé de préparer le rapatriement de certains de ses ressortissants présents dans la zone de conflit. Selon le Quai d'Orsay, il y a aujourd'hui près de 400 000 Français dans la douzaine de pays devenus des cibles pour l'Iran. Parmi eux, 25 000 Français dits de passage dans le secteur se sont déjà signalés sur le site du ministère des Affaires étrangères. Chloé Geffroy, ce rapatriement concernera en priorité les personnes les plus vulnérables.
Concrètement, c'est aux ambassades et aux consulats des pays concernés d'établir leur propre liste de personnes vulnérables en lien avec le Quai d'Orsay. En ce qui concerne les vols, plusieurs options sont sur la table. Première possibilité, des vols commerciaux sur lesquels Paris aura pu réserver des blocs de places. Deuxième option, des vols civils. Et puis, si nécessaire, la France pourra mobiliser des avions militaires. En attendant, l'inquiétude monte pour beaucoup de familles en voyage au Moyen-Orient. Anselme, 9 ans, coincé à Dubaï avec ses parents.
Dès qu'il y a des bruits de camions, de voitures, de trucs, je crois que c'est des missiles et j'ai peur.
Ou encore Delphine qui se trouve en ce moment dans le sud de la Jordanie, à Aqaba.
Il y a 3 jours, on a quand même vu un missile passer au-dessus de notre tête et qui a été explosé en plein vol, quoi.
Depuis, la même question revient en boucle. À quand un retour à la maison ? Delphine a pu contacter l'ambassade, mais ne se sent ni écoutée, ni rassurée.
On est des grands voyageurs, on voyage beaucoup avec les enfants depuis des années. On n'a jamais eu ce souci. On n'a jamais eu besoin de l'ambassade française. Mais là, quand même, je me dis, mince, il arrive un truc comme ça et on ne sait pas nous mettre en sécurité. Je trouve ça quand même alarmant. On ne peut pas rester ici indéfiniment avec les enfants. Enfin, c'est pas possible. Donc, on nous a dit de patienter calmement.
Leur vol prévu hier a été annulé. Aucun autre vol n'est programmé avant mercredi prochain. Au total, plus de 2500 ressortissants français se trouvent actuellement en Jordanie.
Chloé Geffroy a noté enfin qu'Emmanuel Macron s'adressera aux Français ce soir à 20h. Une allocution présidentielle consacré à la situation au Proche et au Moyen-Orient, précise l'Élysée. Hier, lors de son discours sur la nouvelle doctrine nucléaire française, le chef de l'État avait mis en garde contre un risque, je cite, « d'embrasement à nos frontières ». Y aura-t-il des alliances entre LFI et le reste de la gauche au deuxième tour des municipales le 22 mars prochain? Les dernières sorties polémiques de Jean-Luc Mélenchon animent le débat. Le leader insoumis taxé d'antisémitisme après avoir ironisé sur la prononciation de Jeffrey Epstein, devenu Epstein, et sur celle de Raphaël Glucksmann, appelé Glucksmann. Certes, Jean-Luc Mélenchon a présenté ses excuses hier à l'eurodéputé Place Publique, mais il en faudra plus pour gommer les divisions accentuées par le lynchage mortel du militant identitaire Quentin Derenck. Lynchage pour lequel des proches du député LFI Raphaël Arnaud ont été mis en examen. Raphaël Glucksmann et une partie des socialistes insistent désormais pour rompre définitivement avec la France insoumise. Adrien Toffolet, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
En réalité, si la question des alliances au premier tour semble tranchée, elle ne l'est pas pour les rapprochements au second tour, Adrien.
C'est clair, net et sans exception, peut-on lire dans un communiqué de presse publié hier par le mouvement de Raphaël Glucksmann, qui précise noir sur blanc que Place Publique ne forme aucune alliance, même locale et isolée, avec la France insoumise dans le cadre des élections municipales. Une position ferme et définitive, mais seulement en apparence, car elle pourrait bien évoluer. Pour le moment, le communiqué de presse ne concerne que le premier tour, admet un proche de Raphaël Glucksmann, qui laisse entendre que le patron de Place Publique qu'au soir du premier tour ajustera sa position, notamment dans les cas où le risque est de voir l'extrême droite l'emporter dans certaines communes. La question des alliances au second tour avec les insoumis est encore plus épineuse pour les socialistes et les écologistes qui, au-delà du front républicain, auront besoin des voix de LFI et même probablement de nouer des accords avec une liste insoumise pour ne pas perdre certaines villes comme Nantes, Avignon, Marseille, Paris et Lyon, ou en conquérir d'autres comme Amiens, Limoges et Toulouse. Dans cette dernière, le candidat PS François Briançon laisse la porte ouverte à une alliance si le candidat LFI, le député François Picmal, clarifie sa position vis-à-vis, je cite, des ambiguïtés répétées de Jean-Luc Mélenchon, complotiste au relent antisémite. Fin de citation. Une clarification exigée également par la chef des écologistes Marine Tondelier à l'ensemble des candidats insoumis concernés par de potentielles alliances, tout comme la direction du PS qui, malgré l'arc anti-LFI portée par François Hollande, Jérôme Guedj ou encore Carole Delga, se résout déjà à accepter, mais sans le crier sur les toits, des alliances dans plusieurs dizaines de villes et ce, dès le premier tour.
Adrien Toffolet, service politique de France Culture. À Lyon, le climat est lourd depuis la mort de Quentin Derenck le 12 février dernier. Les syndicats rapportent des menaces et des intimidations contre leurs militants et pour dénoncer ce climat, un rassemblement intersyndical a réuni aujourd'hui environ 500 personnes. Étaient présents la CGT, Solidaire, la FSU, Force Ouvrière, mais pas la CFDT. Les manifestants qui redoutent une normalisation de l'extrême droite dans leur ville. Le reportage à Lyon de Christophe Vincent.
Les menaces et les violences doivent cesser, mais nous ne laisserons jamais intimider.
La mort tragique de Quentin Derenck ne doit pas occulter 15 ans de violence avec des syndicalistes passés à tabac. Message de tous les militants présents devant la Bourse du Travail, comme le porte-parole de Solidaire qui attribue des faits récents à l'extrême droite.
Le local de l'Union départementale Solidaire a été attaqué par un individu armé d'une barre de fer. Les locaux de la CGT Ville de Lyon ont reçu un email leur annonçant qu'une bombe avait été déposée et dissimulée dans leurs locaux. Depuis l'affaire Quentin, les syndicalistes de Lyon se sentent en danger. Moi, je suis obligé de m'exprimer sous le couvert de l'anonymat parce que je crains pour ma sécurité. Et c'est le cas de tous les camarades présents aujourd'hui.
À côté des syndicalistes, Marie, elle n'a pas digéré la marche autorisée en hommage à Quentin.
Les Lyonnais sont antifa. Lyon est une ville de résistance et moi, quand une manifestation droite radicale part de la place Jean Jaurès, passe à proximité de l'université Jean Moulin, je suis pas agrégée d'histoire, mais franchement, ça me fait un petit peu mal, quoi. L'extrême droite, elle est là et en fait, on peut rien y faire et on le subit. Moi, je trouve qu'il y a un délitement des contre-pouvoirs, un délitement aussi des oppositions face au fascisme et franchement, je trouve ça inquiétant en tant que citoyenne et aujourd'hui en tant que Lyonnaise.
Mes amis n'osent plus manifester, soupire-t-elle, mais elle ajoute « Avoir peur est la pire des choses ».
Christophe Vincent à Lyon. Dans l'actualité économique, ce constat inquiétant dressé par l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, dans les postes à responsabilité en entreprise, les femmes restent moins bien payées que les hommes, un écart de 16% pour la rémunération annuelle médiane, écart qui ne se résorbe pas depuis 10 ans. Marine Corbel, vous nous présentez les résultats de cette étude de l'APEC.
En 2016, la moitié des femmes cadres gagnaient plus de 45 000 euros par an, les hommes 52 000. Si on prend les chiffres de 2025, maintenant, on passe à 50 000 pour les femmes, 58 000 pour leurs collègues masculins. Résultat, l'écart reste exactement le même, 16%. Une inertie alarmante pour Hélène Garner, directrice des données et des études de l'APEC.
Ça stagne ou ça baisse très 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 lentement. On a un noyau dur d'inégalités qui persiste. Il faudrait 50 ans au rythme actuel pour atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes.
Lorsqu'elles occupent le même emploi, rien n'a changé, ou à peine, les femmes gagnent en moyenne 7% de moins, et encore faudrait-il qu'elles accèdent au même poste que les hommes. Moins nombreuses dans les domaines les plus rémunérateurs, comme l'industrie, la production, elles occupent aussi moins les positions de direction à forte responsabilité, pointe l'APEC. Pourtant, toujours selon l'association, elles sont 53% à souhaiter évoluer, c'est presque autant que pour les hommes.
Cet écart de rémunération, il ne s'explique pas par un présupposé manque d'ambition des femmes. Elles demandent des mobilités, elles demandent des augmentations de salaire autant que les hommes. Par contre, elles obtiennent moins souvent satisfaction que les hommes.
Si l'écart de rémunération dès le premier poste de cadre a baissé en 10 ans, il est passé de 4 à 2%, le gouffre se creuse tout au long de la carrière, explique Hélène Garner.
Il atteint 12 points d'écart pour les 55 ans et plus. Les femmes ont des carrières parfois plus hachées que les hommes et l'impact de la parentalité sur les trajectoires des femmes joue aussi en leur défaveur. On demande une augmentation sur une base qui est inférieure à celle des hommes.
Des inégalités qui persistent malgré un encadrement législatif de plus en plus important. L'APEC attend beaucoup de la directive européenne sur la transparence salariale qui doit arriver en septembre à l'Assemblée nationale.
Explication signée Marine Corbel. L'UNEDIC, le régime d'assurance chômage, prévoit un déficit de 2,1 milliards d'euros en 2026. L'organisme anticipe des créations nettes d'emplois nulles et une croissance poussive de l'économie française. 1%, mais surtout l'UNEDIC subit cette année un prélèvement de l'État de 4,1 milliards d'euros. Sans cette ponction, les comptes seraient excédentaires de 2 milliards. Le partenariat avec Amazon est-il en train de menacer le prochain Salon du Livre de Paris? Le syndicat de la librairie française ne participera pas à l'édition 2026 pour dénoncer justement ce partenariat entre le Salon et le géant américain du commerce en ligne. Les libraires indépendants s'inquiètent, je cite, des visées prédatrices et hégémoniques d'Amazon sur le monde de l'édition. Les précisions d'Anne Chépeau.
Le syndicat qui regroupe près de 850 librairies ne sera pas présent au salon et il appelle ses adhérents à faire de même ainsi que tous les professionnels du livre et les lecteurs. Pour son délégué général Guillaume Husson, Amazon n'est pas un ami du livre.
Il faut savoir qu'Amazon attaque depuis 20 ans les lois qui protègent la création et la diffusion du livre en France. Il faut savoir qu'Amazon entrave la capacité des libraires à vendre des livres sur Internet et qu'aujourd'hui, il cherche à inonder le marché de faux livres générés par intelligence artificielle. Il y a déjà des centaines de milliers de ces faux livres sur Amazon.
Le syndicat de la librairie française souligne qu'il faut choisir entre ceux qui font vivre les centres-villes et qui défendent le livre et une multinationale qui ne paie pas d'impôts en France. Il demande de la cohérence au syndicat national de l'édition, organisateur du salon désormais appelé Festival du Livre de Paris.
Ce que je constate, c'est que le syndicat national de l'édition est à nos côtés pour lutter contre Amazon quand Amazon attaque le prix du livre par exemple ou quand Amazon génère des faux livres par intelligence artificielle. Et en même temps, il lui déroule le tapis rouge au Festival du Livre. Je pense qu'il faut être cohérent jusqu'au bout.
1200 autrices et auteurs ainsi que 450 maisons d'édition sont attendues cette année au Festival du Livre de Paris.
Anne Chépeau, un Festival du Livre qui se tiendra au Grand Palais du 17 au 19 avril. Un mot du temps, demain, le soleil dominera partout, sauf autour du Golfe du Lion, avec des nuages et quelques pluies sur le Languedoc-Roussillon. Demain matin, il fera entre 0 et 12 degrés du nord au sud. L'après-midi, la douceur persiste entre 15 et 21 degrés en général. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Alison Vicrobeck à la technique Olivier Arnay.